动乱。
106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des membres de Attaque et des journalistes du PIAF.
Et nous avons comme invité aujourd'hui Armando Ribe, qui va nous parler de son Chili et de tous les événements qui poussent les gens à la révolution là-bas. Mais on commence par la France et par peut-être une petite victoire de la révolution, vu que notre dernière émission c'était sur le triangle de Gonesse, très exactement sur le projet Europa City, dont on a la grande joie d'annoncer la fin de ce projet. Mais tout est en place pour peut-être d'autres combats, car le nouveau projet d'urbanisme de cette zone agricole est peut-être encore pire que le précédent. D'ailleurs, Jean-Marc va nous parler justement de l'aménagement du territoire dans le nord de Paris.
Alors, si le triangle de Gonesse semble enterré, je dis bien semble parce qu'il faut toujours se méfier avec les bétonneurs et le pouvoir, les bétonneurs sont aux aguets un peu partout en Ile-de-France en profitant de différentes occurrences et notamment des Jeux Olympiques qui ouvrent une fenêtre de tir pour bétonner à outrance. À Paris, un immense chantier est en cours. Cet immense chantier, intitulé par la mairie PNEE, ce qui veut dire Paris Nord-Est élargi, concerne un très vaste triangle, encore un triangle, qui va de la gare du Nord à la porte de Clignancourt, de la porte de Clignancourt à la porte de la Villette et retour à la gare du Nord. Dans ce périmètre, les projets de logements, de bureaux, de commerces, d'hôtels, d'installations olympiques vont manger tous les espaces rendus disponibles par la SNCF, mais aussi par la RATP ou encore par l'APHP, donc ce qui représente une forme très discrète mais très très efficace de privatisation des espaces publics au profit de promoteurs, tout ce qu'il y a de plus privé. Donc au nom de partenariat public-privé, on déshabille les propriétés collectives et ce que le contribuable a acheté génération après génération pour libérer du mètre carré, renflouer soi-disant la SNCF au passage et donc bétonné. Au total, sur ce petit triangle, qui ne représente pas grand-chose finalement, si on regarde l'échelle de la carte, il va y avoir donc déjà prévu 760 000 mètres carrés supplémentaires. Et ces 760 000 mètres carrés, c'est sans compter les autres projets publics qui ne rentrent pas dans le cadre de ce programme PNE, et c'est sans compter certains projets privés de grande ampleur, certains dépassant les 40 000 mètres carrés, donc à ajouter à ce total absolument édifiant. Malgré la création de quelques espaces verts qui sont hélas insuffisants, qui sont pour la plupart enclavés, les 10e et 18e arrondissements, je ne parle pas du 19e qui a les buts de Chaumont, donc les 10e et 18e arrondissements devraient rester en dessous de 2,6 mètres carrés d'espace vert par habitant, ce qui est à peine le quart du minimum préconisé par l'OMS. L'OMS préconise 10 mètres carrés minimum d'espace vert par habitant et serait même en train d'évoquer une augmentation de ces 10 mètres carrés à cause du réchauffement climatique et du phénomène des îlots de chaleur. La mairie qui reste sourde, pourtant elle se gargarise sans arrêt de vocabulaire vert et de vouloir tout verdir en ce moment, même faire des forêts urbaines. Pourtant, les trois arrondissements concernés, qui sont déjà hyper denses, saturés de circulation, de pollution, subissent déjà et vont subir des dizaines de chantiers en même temps, car, tenez-vous bien, promoteurs et mairies veulent tout boucler pour les JO, c'est-à-dire dans 4 ans.
Alors il y a d'autres personnes qui veulent boucler des projets et il y a des gens qui les empêchent. Par exemple, il y a Emmanuel et son copain Jean-Paul.
Eh oui, Jean-Paul Delevoye, encore un jeune homme très intéressant qui a traversé tous les régimes de droite depuis à peu près 40 ans. Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire chargé des retraites et qui est maintenant ministre chargé de la réforme des retraites, présente à peu près toutes les tares cumulées de la Macronie. Il est opportuniste, il a trahi son camp d'origine, il manie la duplicité en maître, il est libéral en économie, mais autoritaire pour le reste. Un petit gars bien sympathique, quoi. Ce retraité de 72 ans trouvait qu'il n'avait pas eu assez d'honneur, de fonction et d'argent public. Il s'est donc vendu au petit Macron, pour le titre ronflant de haut-commissaire. Puis, donc, ce titre ronflant s'est converti en poste ministériel, son petit bâton de maréchal avant de partir. Il est vrai que celui qui veut diminuer les retraites tout en augmentant la durée de cotisation est bien placé pour proposer ce régime aux populos et dire pique-pendre sur les honteux régimes spéciaux des fonctionnaires. Ces affreux privilégiés, vous savez, qui coûtent tellement cher à la société. Tandis que Delevoye, ce chantre de la retraite à points, voulu par son maître élyséen, est un être droit, exemplaire et désintéressé. Ce travailleur modeste touche et touchera, excusez du peu, une retraite de directeur de société, partielle, il est vrai, puis celle de conseiller général, de maire, de député, de sénateur, de ministre, de médiateur, de président du CESE, de président de l'Association des maires de France, pour finir de haut commissaire, un vrai gilet jaune, quoi. Alors j'exagère un peu parce qu'on n'a pas le droit de cumuler toutes les retraites. Il ne pourra cumuler que sa retraite privée plus deux de ses retraites publiques, ce qui devrait lui assurer quand même une retraite largement au-dessus de 12 ou 13 000 euros, d'après les premiers calculs. À l'heure actuelle, il cumule, ce brave homme, ses émoluments de ministre plus ses retraites. Mais il peut faire la leçon aux autres. Si on fait le tour du gouvernement, d'ailleurs, et des piliers de la majorité, on trouvera essentiellement des cumulards qui vont empiler retraites publiques et privées sans encombre et auxquels la réforme ne coûtera rien, car pour ce type de carrière, la loi n'aura aucun impact.
Alors, tu avais une autre chronique dont j'ai trouvé le titre phénoménal que je ne peux pas m'empêcher de citer ici. Islamophobie, Paul Ozizi.
Ah oui, alors nous sommes en plein délire, comme d'habitude. C'est un serpent de mer qui revient dans la politique française. Quand un gouvernement veut cacher des choses, on agite un petit voile, on agite un petit peu d'islam, et comme ça, on parle d'autre chose que des retraites, par exemple. Alors là, ça marche, comme d'habitude. On a parlé du voile, on parle d'islamophobie, et quand on agite le chiffon rouge, ça marche à chaque fois. Alors, l'islamophobie est un terme qui est très à la mode, mais qui finalement ne veut pas dire grand-chose, ou plus exactement, totalement autre chose que ce que l'étymologie nous enseigne. Qu'est-ce que l'islamophobie ? Ce serait donc la haine de l'islam et par extension des musulmans. En fait, c'est pas tout à fait ça. Dans la réalité, l'islamophobie, c'est surtout une expression qui permet de renouveler le racisme et la xénophobie à la papa, de la droite et de l'extrême droite. On n'est plus en se réfugiant derrière le paravent de la laïcité pour mieux accabler le bougnoul de deuxième génération ou de troisième génération. Donc avant, c'était un bougnoul, maintenant, c'est un anti-laïc. À l'autre bout de l'échiquier politique, l'islamophobie arrange bien des personnes également. Des groupes qui parfois ont des visées peu amènes, souvent franchement islamistes et ou communautaristes, lesquels se servent à leur tour de la laïcité, que pourtant ils détestent plus que tout, pour faire avancer leurs idées rétrogrades, tout en embrigadant, des gauchistes complaisants. En bref, le mot islamophobie est un piège à con, que les pouvoirs ultralibéraux utilisent, tel un chiffon rouge devant un taureau, pour lancer des vagues de débats puants et stériles, pendant qu'ils font passer par décret, par exemple, le massacre de l'assurance chômage, la poursuite des négociations sur le CETA, le massacre des retraites, et bien d'autres saletés encore. Arrêtons donc de nous laisser balader, alors que l'essentiel est bien la répartition des richesses et la justice sociale, qui seules feront reculer naturellement et sans heurts toutes les formes d'extrémisme, qu'il s'agisse des néo-pétinistes ou des salafistes, qui tous deux prospèrent sur le fumier de la pensée.
Et on enchaîne sans perte de temps sur une analyse profonde sur la comparaison des médias à l'étranger, qui regarde la France par rapport aux médias.
C'est les médias français qui regardent l'étranger.
Ou alors l'étranger qui regarde. Vas-y.
Alors, c'est plutôt les médias français qui regardent l'étranger et qui ne le regardent pas avec les mêmes yeux qu'ils ne regardent la politique en France, et notamment les événements sociaux. Alors, quand c'est à l'étranger, on a une analyse, et quand c'est en France, on en a une autre. Alors, dans la presse, il a toujours existé des campagnes de presse, des intox, des infox, plus ou moins volontaires, visant à orienter l'opinion. C'est un grand classique. La presse française, qui, rappelons-le, est aux mains de 8 ou 9 milliardaires pour 95% des titres, a remis au goût du jour ces dernières années trois techniques de désinformation. La première, c'est le retournement. Le deuxième, la lecture différenciée. Le troisième, l'omission. Le retournement, c'est prendre une information brute, sans analyse, puis inverser les rôles des protagonistes. Exemple, l'incendie du Fouquet's pendant les Gilets jaunes, ou l'invasion de la Salpêtrière l'année passée. Des gilets jaunes poussés à coups de matraque et de gaz se réfugient aux abords du Fouquet's. Les grenades multiples lancées par la police provoquent un incendie et ravagent le célèbre restaurant. La presse parle de saccage par les gilets jaunes, de dévastation par des émeutiers. c'est le retournement. Même scénario à la Salpêtrière, où des manifestants apeurés et gazés se réfugient comme ils peuvent dans l'hôpital, dans lequel la police pénètre à son tour pour continuer son, entre guillemets, maintien de l'ordre. Et Castaner, puis la presse aux ordres, commence à parler de barbares et non pas de superlatifs assez haineux pour parler de cette valtaille rouge, alors que, évidemment, ce sont les CRS qui ont, évidemment, déliré gravement. Deuxième technique, l'omission. Elle est plus intéressante, moins grossière, et c'est ce que viennent de pratiquer plusieurs médias, comme Le Parisien, qui se sont bien rendus compte qu'il devenait impossible, même à des journaux ultralibéraux, de ne pas parler de la contestation dans le monde. Alors, ils parlent de la contestation partout dans le monde, mais pas en France, où, comme chacun peut le constater, tout va pour le mieux et sans aucune contestation. Ils pratiquent aussi la lecture différenciée d'événements similaires. C'est l'exemple Hong Kong contre Gilets jaunes. À chiffre de manifestants égal, en France, le mouvement des Gilets jaunes s'est essoufflé dès les premières semaines. Peut-être même avant d'avoir commencé, si on écoute la presse ultralibérale. D'après la presse, à Hong Kong, en Algérie, on parle de marées humaines, avec des chiffres à peu près identiques. Les violences policières sont également intéressantes. Leur analyse est fascinante. En France, donc, on compte des milliers de blessés, on compte 2000 condamnations, on compte donc 24 éborgnés, et pour tout cela, on parle d'une action légitime de la police. On ne parle pas des milliers de grenades et de leurs coups, indépendamment du côté humain. On ne parle pas des milliers de tirs de LBD. La presse de pouvoir parle uniquement de l'héroïsme des forces de l'ordre et trouve naturel qu'on décore à tout va la maréchaussée pour ses basses œuvres. La même presse, quelques mois après, s'insurge, parle d'une terrible répression en Chine, de l'usage disproportionné de la force et des gaz, même sur des personnes âgées et des enfants, alors qu'en France, on ne gaze pas les personnes âgées, on se contente de les tuer sur les balcons. Et on se contente de faire plonger les jeunes dans la Loire quand ils écoutent de la musique. Alors qu'assez curieusement, dans cette belle dictature qu'est la République populaire de Chine, la police à Hong Kong a fait preuve de retenue si on la compare à la police de notre beau pays des droits de l'homme.
Et pour évoquer les droits de l'homme, pour cette émission spéciale Chili, on peut se rappeler du coup d'État de 1973. Et en parlant de massacre, on peut rappeler la mort, l'assassinat du grand guitariste Víctor Jara. Te recuerdo, Amanda.
.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et nous ne venons pas d'écouter Víctor Jara, on ne sait pas ce que c'était sur ce CD, sans doute de la musique argentine à l'eau de rose, mais cela n'empêche pas que nous continuons le débat.
Moi je préfère l'eau de rouge.
Rouge et un petit noir le matin. Et Gaël va nous parler ici de bien d'autres choses.
De multinationales. On va prendre trois exemples. Total, par exemple. Total, c'est 160 filiales dans les paradis fiscaux et 132 millions de CICE, le crédit impôt, généreusement offert par l'État en 2016. Total, ce sont des exactions contre les populations autochtones en Birmanie, c'est l'exploitation massive de sources d'énergie carbonée, notamment les gaz de schiste. Et ça paye. En 2018, Total a augmenté son chiffre d'affaires de 22% et son bénéfice mondial de 39%. Autre exemple, Amazon. Amazon délocalise son chiffre d'affaires réalisé en France à 90% vers des paradis fiscaux. Amazon, c'est aussi des accords fiscaux secrets pour payer 0% d'impôts. Amazon, c'est la précarisation et la surveillance des salariés, les cadences infernales, l'antisyndicalisme, les entrepôts non chauffés. Amazon, ce sont des fermes de serveurs qui consomment et polluent plus que le secteur aéronautique. C'est la non-reprise des déchets électroniques, la destruction annuelle de plus de 3 millions de produits invendus. Et ça paye encore d'être un salaud intégral, puisqu'en 2018, son chiffre d'affaires a augmenté de 31% et son bénéfice mondial de 237%. Troisième exemple, BNP Paribas. C'est la banque française numéro 1 dans les paradis fiscaux, avec près de 200 filiales localisées dans ces paradis en 2017. Et elle réalise plus d'un tiers de ses bénéfices dans ces paradis fiscaux, avec presque pas de salariés. Ils doivent être très efficaces. BNP Paribas, c'est l'un des premiers investisseurs dans la production d'armes nucléaires. C'est 45 milliards d'euros de financement consacrés aux énergies fossiles entre 2016 et 2018. C'est l'augmentation de 80% des fonds dédiés au forage en eau profonde. Et là encore, ça paye, avec 7,8 milliards d'euros de bénéfices mondiaux en 2018 et des dividendes records, un rendement en dividende de 6,7%. Alors un homme politique s'insurgeait en 2019 contre ça. Il disait « Quelque chose ne fonctionne plus dans ce capitalisme qui profite de plus en plus à quelques-uns. La démocratie ne vous protège plus contre les inégalités de ce capitalisme devenu fou. » Et ce n'était pas Philippe Martinez, ce n'était pas Jean-Luc Mélenchon, ce n'était pas Besancenot. C'était Emmanuel Macron à la tribune de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, le 11 juin 2019. Alors en fait, dans la vraie vie, le mec est plutôt conciliant avec les capitalistes puisqu'il leur a accordé 40 milliards d'euros de baisse de cotisations sociales par an. Il les aide en facilitant les licenciements, en plafonnant les indemnités prud'homales. Il leur facilite la vie en signant des accords de libre-échange comme le CETA. Et on pense que ce n'est pas fini. De fait, aujourd'hui, les multinationales ont atteint un niveau de pouvoir disproportionné et dangereux. Et elles imposent leur domination à des États qui sont soit complaisants, comme le nôtre, soit trop faibles, comme le pays du Sud. Et cette impunité alimente le sentiment d'injustice sociale, fiscale et écologique. Alors que faire, comme dirait Vladimir Ilitch Macron ? Individuellement, nous pouvons nous défaire de l'emprise des multinationales en changeant nos modes de consommation ou en nous déconnectant. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi les affronter collectivement pour les faire plier. Et c'est ce que propose ATTAC avec sa campagne contre l'impunité des multinationales, une campagne lancée cet automne avec 150 organisations de 16 pays européens. Par exemple, les 12 et 13 octobre, partout en France, plusieurs centaines de personnes ont mis hors service les automates d'Amazon, BNP Paribas et Total, en posant dessus des autocollants hors service ou en bloquant leur accès. Ces actions ne sont qu'une étape. ATTAC promet un vendredi noir pour Amazon à l'occasion du Black Friday les 29 et 30 novembre. Alors, pour ceux qui vivraient dans une grotte ou qui auraient définitivement quitté la société de consommation, j'explique ce que c'est le Black Friday. C'est une journée de prix cassé, de consommation extrême, qui est a priori totalement incompatible dans ses principes avec l'objectif d'une planète vivable dans les prochaines années. Vous pouvez participer à ce blocage d'Amazon de deux manières, soit participer directement aux actions de blocage de sites Amazon près de chez vous. Donc vous pouvez vous inscrire soit auprès de votre comité local ATTAC, soit sur le site d'ATTAC, france.attac.org. Si vous ne vous sentez pas l'âme d'un désobéissant, vous pouvez financer l'action d'ATTAC parce qu'il y a besoin de sous pour cette action. On a besoin d'argent pour préparer la logistique et former celles et ceux qui participeront au blocage de sites Amazon partout en France, pour organiser des actions en ligne, des actions symboliques et diffuser le kit « Comment bloquer Amazon ». Besoin d'argent aussi pour réaliser et diffuser plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires du petit guide pour comprendre et combattre l'impunité des multinationales. Et enfin, besoin d'argent pour enquêter et publier un rapport sur l'activité d'Amazon et les conséquences nuisibles aux échelles globales et locales de ces méfaits fiscaux, sociaux et environnementaux. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site web de ATTAC, france.attac.org. ATTAC a besoin de 80 000 euros pour financer ses actions d'ici la fin novembre et pour l'instant en a récolté un quart.
Et nous passons maintenant à l'histoire et à l'actualité du Chili et nous allons écouter une artiste qui s'appelle María Paz Santibáñez, concertiste pianiste. Elle avait 5 ans en 1973 lors du coup d'État. Elle était déjà pianiste et puis sous la dictature, elle était étudiante en 1987 à l'Universidad de Chile à Santiago. Militante, responsable dans les mouvements étudiants, elle a participé aux manifs en pleine dictature en 87. Et un soir de septembre, elle reçoit un tir à la tête de la répression policière. En fait, c'était un policier qui lui a tiré une balle dans la tête alors qu'elle était accroupie pour prendre une bombe de peinture pour taguer un mur, un appel à la grève. Une vidéo tournée par des caméramans qui passaient par là a montré une partie de ce drame et a été diffusée dans le monde entier. Elle a eu de la chance, beaucoup de chance, une balle déviée, elle a eu beaucoup de volonté, elle s'est rétablie, elle a retrouvé l'usage de ses mains, devenue une grande artiste reconnue. On l'écoute sur une variation de El Pueblo Unido.
vencido de pie, luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá.
Alors nous voici avec notre invité, Armando Uribe, bonjour.
Bonjour.
Alors tu n'as aucun accent chilien parce que tu es arrivé à 13 ans en France.
Oui, et qu'en plus je parlais français avant, en fait j'ai toujours été dans le système scolaire français, ce qui n'est pas du mérite, c'est normal. Donc.
Mais tu es un grand connaisseur de l'histoire chilienne que tu as vécu toi aussi à travers et ta vie et ta famille, et en vivant à moitié à Paris et une bonne partie de ton vie professionnelle au Chili, tu es un témoin et de l'économie et de la société.
Oui, en fait c'est plutôt l'inverse, j'ai plutôt vécu une bonne partie de ma vie personnel et professionnel en France, en fait à l'étranger, hors du Chili. Il m'est arrivé d'avoir la chance de vivre au Chili pendant 5 ans. Je suis retourné en France donc là, début 2018, donc j'ai vécu de 2012 à 2018 là-bas, et pu constater de très très près quelle est cette réalité chilienne, à la fois sociale, économique, politique, et puis naturelle. C'est un pays magnifique, c'est un très très beau pays, mais qui est un pays organisé pour une toute petite élite. Qui, ça a été dit récemment, tous ces jours-ci, lorsqu'on évoque le Chili, c'est une toute petite élite qui a un 1% qui capte plus de 33% en fait de la richesse produite au Chili, ce qui est un des cas les plus flagrants d'inégalité au monde. Je crois que le Brésil fait un tout petit peu pire, mais le Brésil c'est près de 165 ou 167 millions d'habitants. Le Chili est un petit pays de 18 millions d'habitants, et donc moi je dis toujours c'est plutôt un petit pays de 18 millions de pauvres. Les riches, on les compte sur le doigt de quelques mains, comme ici autour de cette table.
Quelques doigts coupés.
Oui, et quelques doigts coupés.
Oui.
Et donc. Comment on a pu arriver à un tel captage des richesses? C'est pas un hasard, on le sait bien, c'est le poids de l'histoire.
C'est historique, oui. Non, c'était déjà comme ça quand le Chili était encore une colonie espagnole. Hein, donc le Chili a été découvert par les Espagnols. Les Espagnols sont plutôt arrivés au Chili, où il y avait déjà des gens. En 1540, c'était le dernier pays conquis par les Espagnols. Et ça a été l'os le plus dur pour les Espagnols, puisque ça a été une frontière de guerre permanente, où l'Espagne a dû maintenir en fait une armée active pendant toute la colonie, jusqu'à l'indépendance en 1818. Et pendant tous ces siècles, il s'était formé d'abord une aristocratie espagnole, puis créole, puis locale, qui est devenue une élite ou une oligarchie qui maintient aujourd'hui encore. Donc, plus de 200 ans après l'indépendance du Chili, quasiment la totalité du pouvoir économique, pouvoir politique aujourd'hui, puisque c'est cette même classe qui est au pouvoir aujourd'hui au Chili, pouvoir militaire, et pouvoir social. Pouvoir religieux, donc dans le social, la pression de l'Église. Voilà.
Et ce pouvoir-là a réussi, malgré plusieurs révolutions, plusieurs élections, à se maintenir. Et sans refaire toute l'histoire, on peut partir de 1970 et 1973.
Alors, de 1970, de 70 à 73, le gouvernement de Salvador Allende, c'est une bizarrerie dans l'histoire chilienne. Une bizarrerie qui avait déjà été tentée en 1891, ça avait fini comme une guerre civile emportée par l'oligarchie et par la droite. Il y a eu des tentatives au début des années 30. Le Chili est un des trois pays au monde, dans le monde occidental, avec la France et l'Espagne, qui ont connu un front populaire. À peu près dans les mêmes années, un peu plus tard au Chili, ces choses-là arrivent, toujours avec un décalage d'un certain nombre d'années en Amérique, et donc un front populaire où il y a eu donc une apparition du peuple en fait comme corps social et corps politique. Et ce qui est devenu donc évident et flagrant en 70 à l'élection de Salvador Allende, c'est que c'était un sujet politique de plein droit et avec les pleins pouvoir politiques et sociaux pour la première fois. Et c'est ça qui était probablement insupportable à l'oligarchie chilienne et qui a fait qu'ils ont décidé, avec l'aide et l'amitié des Américains, de faire un coup d'État et d'installer de nouveau donc, leur pouvoir. Pendant donc 17 ans de dictature, de 73 à 90, et puis lors de la récupération de la démocratie, de maintenir tout ce qu'ils avaient obtenu et développé sous cette dictature. Je rappelle aussi que cette dictature a été l'occasion d'installer pour la première fois dans le monde occidental ce modèle qu'on connaît désormais tous du néolibéralisme à outrance, enfin, c'est de l'ultralibéralisme de la dérégulation générale. Le Chili est le pays qui connaît ça jusqu'à aujourd'hui. La privatisation générale de tous les services publics et donc un État devenu subsidiaire, constitutionnellement subsidiaire, c'est-à-dire que le Chili a dans sa constitution inscrit l'idée que l'État doit être le plus petit possible et tout ce que ne peut pas faire le privé. L'État peut le faire, mais l'État n'a pas le droit d'intervenir donc dans la réalité économique, sociale, etc. C'est ce qui a donné aujourd'hui donc au bout du processus et par écrasement progressif et long de toutes les classes moyennes et populaires, donc une sorte de ras-le-bol et de cris dont on ne peut plus. Il faut qu'on en sorte.
Alors on en sort, mais on peut peut-être finalement dire ce mot, c'est-à-dire que la dictature a mis en place une dictature par la force militaire, ça a un petit peu disparu, un petit peu, on peut dire. Par contre, elle a maintenu...
Non, ça a disparu. Oui, ça a disparu. On ne peut pas dire que ça a un petit peu disparu. Non,
ça a disparu. Par contre, elle a réussi par l'organe économique et par la loi, et même la Constitution, à maintenir cette différence entre citoyens.
Oui, ce qu'on appelle la dictature militaire, en fait, était une dictature civique et militaire. Donc il y avait des civils derrière les militaires, il y avait des économistes de l'école de Chicago, des élèves de Hayek et de Friedman. Donc Friedman est allé de nombreuses fois sous Pinochet au Chili et a célébré le triomphe de ses idées pour la première fois, donc dans la réalité. Et puis petit à petit, avec Mme Thatcher à plus tard et Ronald Reagan, ça s'est répandu dans le monde entier, mais le Chili était le premier pays où ça se produisait. Donc ça a été très très radical. Alors les militaires ont installé, enfin ça a été installé par des civils, par des économistes, ça n'a pas été installé par les militaires. Les militaires n'ont aucune idée d'économie, ni du reste d'ailleurs. Donc ça a été installé grâce à un pays maintenu sous une coupe, mais sous une botte militaire très très dure, avec des disparus, des exilés, des torturés, enfin des morts de très très nombreux, et une impossibilité d'avoir de la presse quelconque, une impossibilité de réunion, etc. Ça a duré 17 ans et la sortie de cette dictature à partir de 90 a été aussi très dure, puisque les militaires tenaient encore des parties très importantes du pouvoir. Pinochet était sénateur à vie. Il y a eu un moment, une transition de peur, de la crainte, de la terreur, en fait, pendant, je dirais, quasiment les 10 premières années de ce qu'on a appelé les gouvernements de la concertation. Et donc, après, tout ça a été de la gestion de l'existant, et en essayant d'ajouter un petit peu de social par-ci, un petit peu d'aspirine par-là, sur les douleurs très très vives qui se manifestaient au fur et à mesure. Ce qui se passe aujourd'hui au Chili, c'est une grande explosion sociale, et n'est pas la première. Ce n'est que la dernière d'une série d'autres qui s'étaient déjà produits par le passé, les plus récentes étant les lycéens en 2006, les étudiants en 2011, juste après les grandes manifestations, les gigantesques manifestations contre le système des retraites, des pensions privées, les gigantesques manifestations sur la situation faite aux femmes au Chili, etc. Donc ici, on est. C'est pas une chose nouvelle, c'est pas une chose inconnue. C'est curieux que tout le monde le prenne comme une surprise qu'il n'avait pas vu venir, mais en réalité, c'était quelque chose qui se préparait depuis fort longtemps.
Mais pourtant, toute la population n'est pas anti-système, voire même certains ont un regret de la période Pinochet.
Oui, on dès 89, donc 89-90, les élections qui ont terminé avec la dictature, on voyait que le pinochetisme, pour l'appeler d'une manière simple, recueillait à l'époque, c'était 44% des voix des votants. Aujourd'hui, on calcule que c'est entre 35 et 40, mais ces 35 et 40% des votants, c'est quand même beaucoup, c'est une proportion considérable. Il y a cet aspect aussi historique au Chili d'amour de l'autoritarisme, hein, et d'amour de la force. C'est ce qui explique ça s'explique par cette histoire de pays caserne, pays en état de guerre permanente, de guerre interne permanente, qui est hérité donc de la colonisation espagnole.
Alors, on va écouter une autre artiste, elle plus jeune, Ana Tijoux. Elle est fille de parents chiliens exilés lors du coup d'État de 1973, ce qui fait qu'elle est née à Lille, elle a vécu à Paris. Elle a découvert seulement à 6 ans le Chili, elle s'est réinstallée au Chili, elle est revenue souvent en France. Elle est connue dans toute l'Amérique latine et on va écouter un rap engagé. C'est un peu l'hymne de la révolution en cours, de la révolution en action au Chili, avec des millions de vues sur le web, comme on dit. Je vais vous laisser dire le titre.
Cacerolazo.
En 200 metros, tira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los pacos.
Fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et on poursuit avec Armando Uribe, qui nous expliquait un peu l'historique du Chili. Et maintenant, voyons le constat aujourd'hui. On peut prendre quelques exemples sur cette privatisation à outrance. Par exemple, l'éducation.
Oui, où conduit en fait ce système de dérégulation, ce système non régulé, puisque c'est ça ce qu'on appelle le néolibéralisme ou l'ultralibéralisme. Donc c'est la disparition de l'État dans des activités qui sont historiquement des activités de service public, notamment donc l'éducation, la santé, les transports, les pensions, les retraites. Etc., etc. Enfin, au Chili, on est allé très très loin, puisqu'on a privatisé les routes, c'est un classique. En France, on commence à connaître ça. Les routes, les aéroports, les infrastructures en général. Mais l'éducation est un cas particulièrement tragique, puisque le Chili, depuis les années 30, à cause de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'existence d'un front populaire, il y avait eu l'installation et le progressif développement d'une école primaire public, gratuite et obligatoire, de très grande qualité. Le Chili avait formé des professeurs, des instituteurs, en fait on appelle ça les professeurs normalistes au Chili, des instituteurs de très grande qualité, très, très polyvalents, très très riches, une formation très, très 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 riche, et qui ont formé donc des générations de gens absolument de tous les milieux, et donc les issus des paysans, du milieu paysan, du milieu ouvrier, du milieu petit commerçant. Enfin, c'est ce qui a fait, qu'est-ce qui a créé en fait les classes moyennes intellectuelles au Chili, qui n'avaient jamais existé en fait auparavant. Les intellectuels chiliens étaient toujours issus des élites. Il y avait une ou deux grandes écoles publiques, grands lycées publics, l'Institut National et l'Institut Barros Arana. Il y avait une université publique de très grande qualité. Et tous les actuels, toutes les personnes d'aujourd'hui entre 60 et 80 ans ont tous étudié gratuitement et sont tous devenus des grands professionnels. Aujourd'hui, les étudiants sont tous condamnés à s'endetter et à s'endetter pendant très longtemps. Les étudiants sont endettés pour 20 à 30 ans en payant leurs études, en finançant leurs études par des crédits. qui les laisse, donc c'est des crédits usuriers, hein, qui les laisse endettés pendant plus de temps que nécessaire, le capital ayant été payé relativement vite, entre 5 et 10 ans, et ils sont à payer pendant une dizaine d'années ensuite des intérêts. Même l'université publique, même l'université du Chili publique est payante aujourd'hui au Chili. Elle est simplement subventionnée pour un certain nombre d'étudiants. C'est ce qu'avait réussi à installer la présidente Michelle Bachelet en réinstaurant un certain type de gratuité, mais sans revenir en fait à la gratuité de l'institution. Donc voilà, ça c'est un exemple grave. Un exemple encore plus grave, mais ou bien aussi grave, c'est la santé qui a été très, très largement privatisée. Le système d'hôpitaux publics existe encore, mais totalement définancé. C'est-à-dire qu'il est très difficile dans le système public, malgré la qualité des personnels, de trouver parfois du coton, une aiguille, etc. Ils sont dans un état de précarité très avancé, état de précarité qui est maintenu pour pouvoir éventuellement reprivatiser derrière, si les circonstances s'y prêtent. On est en train de il y a tout un programme de construction d'hôpitaux publics qui vont être en fait des hôpitaux publics privés, plutôt privés que publics d'ailleurs. Enfin, il y a ce genre de schéma. Les transports, c'est une chose très flagrante. Le Chili est un très très long pays qui fait plus de 4000 km de long, même si en moyenne il est très étroit, c'est en moyenne 150 à 200 km de large. Mais il y a le principales villes du Chili sont toutes installées soit en bord de mer, soit dans la vallée centrale, qui est une vallée centrale qui a quasiment 4000 km de longueur. Il était très logique que ce pays est un chemin de fer très développé. Il y a eu un chemin de fer autrefois, il a été totalement abandonné. C'était un accord conclu entre l'extrême droite chilienne sous Allende, qui avait fait une grève des transports des camions, des camionneurs, financée par les Américains, on le sait aujourd'hui, en faveur aussi de compagnies de transport de passagers dans lequel la famille de Pinochet et quelques militaires avaient des intérêts personnels. Et donc jusqu'à aujourd'hui, le Chili, les Chiliens pauvres se transportent en bus avec pas mal d'accidents, et les Chiliens riches se transportent en avion. Il y a des compagnies désormais privées qui relient quasiment toutes les villes du pays. Voilà, c'est quelques exemples. L'endettement, on parlait des endettements des étudiants, mais l'endettement est général au Chili. Les salaires sont extraordinairement écrasés vers le bas. Et tout le Chili, sauf donc cette classe privilégiée très très étroite, vit à crédit. Et vit à crédit et reprend des crédits pour payer les crédits. Et aujourd'hui, je pense... Alors, on se demandait toujours, en vivant au Chili, on se demande pourquoi ça n'a pas explosé avant, mais parce que les gens avaient encore accès à du crédit. Je pense qu'on est arrivé au bout, peut-être, de cette capacité de crédit, ou de cette capacité à rembourser des crédits déjà engagés. Et les gens disent stop.
Et ils disent même... Les Chiliens sont dans la rue, ils sont tous regroupés en manifestation, en chant, prêts à essayer de faire changer la société, mais ils ne sont pas seuls dans la rue. Il y a une répression dont on n'a pas idée ici dans nos médias français.
Oui, les carabiniers, qu'on les appelle là-bas, c'est une police militarisée, en fait, au Chili, qui dépend néanmoins du ministère de l'Intérieur, a pris l'habitude sous la dictature, mais habitude qu'ils ont gardée jusqu'à aujourd'hui, et même avant donc, ces manifestations de ces 10 derniers jours, de réprimer de manière très violente, de disperser en fait, les manifestations de manière extraordinairement violente. J'ai eu l'occasion de voir là-bas, à de nombreuses reprises, des manifestations très pacifiques, de petites marches d'un endroit à un autre, qui étaient systématiquement dispersées avec des camions à gaz et des camions de dispersion avec de l'eau qui est mêlée avec des produits chimiques assez, très irritants. Les Chiliens, donc, c'est très, très. Les carabiniers chiliens sont très entraînés. Là-dessus, ils ne savent pas faire autrement. Alors, ils pourraient avoir des instructions pour faire autrement, mais il se trouve que là, en 10 jours de manifestation, quasiment 3 semaines de manifestation aujourd'hui, on a 23 morts officiellement reconnus par l'Institut national des droits de l'homme. Et les groupements de médecins disent qu'il y en a beaucoup plus qui n'ont pas été déclarés. On a 76 personnes qui ont perdu un œil pendant ces manifestations, un peu comme en France, avec des LBD. On a de très 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 nombreux blessés. On a des gens qui sont battus quasiment à mort, bastonnés directement avec des bâtons. Il y a des personnes violées, des arrestations parfaitement arbitraires, des gens enlevés de chez eux. Des disparus qui reparaissent, pas tous. Enfin, il y a une ambiance de répression sauvage et démesurée qui nous fait tous, nous rappelle tous de très 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 mauvais souvenirs. Ça ressemble sacrément à ce qui se passait dans les années 80. C'est exactement ce qui se passait, sauf que à l'époque il y avait encore une dictature militaire et à l'époque les gens étaient égorgés. On n'a pas vu encore apparaître des corps de gens enlevés et égorgés ou torturés sauvagement. Torturés sauvagement, on les voit, mais pas à mort encore. Il y a heureusement une réaction des corps intermédiaires, des avocats, des juristes, des médecins, des jeunes étudiants en médecine, etc., qui tous se rassemblent et disent que ça ne va pas se passer comme ça s'est passé autrefois. Des magistrats même qui ont déclaré que ça ne se passera pas comme ça s'est passé, puisque le système judiciaire chilien sous la dictature était parfaitement honteux. Ils disent cette fois-ci, on va juger, on va chercher, on va aider. Mais la force publique porte bien son nom. C'est une force armée et contre une population totalement désarmée. Il y a des parlementaires, des maires d'extrême droite aujourd'hui qui appellent quasiment les gens à s'armer, ce qui est très inquiétant. Et on ne sait pas où est-ce que ça va nous conduire. Nous sommes tous inquiets. On pensait au tout début, autour du 18, 19, 20 octobre, que ça pouvait s'arrêter relativement vite, ce mouvement de manifestation. Ça ne s'arrête pas, ça ne prend que de l'ampleur. Et ce qui est positif, parce que ça nous conduit très probablement à des changements fondamentaux dont le Chili a besoin, mais nous sommes aujourd'hui devant une situation d'abus des droits de l'homme qui est effrayante. On a besoin d'une pression internationale très forte pour ça.
Donc 3 semaines de manifestation avec cette police en face, et pourtant c'est tout le Chili qui est dans la rue.
Dans tout le Chili, la rue, les gens sont dans la rue. Alors, est-ce que c'est tout le Chili ? Il y a des gens qui ne sortent pas, mais on voit dans les images, de très 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 nombreuses images qui sont publiées dans les réseaux sociaux. On voit des vieilles personnes, on voit des jeunes mamans, on voit des gens qui n'étaient pas du tout politisés, qui sont dans la rue aujourd'hui. On voit des petits commerçants, on voit absolument tout le monde. Des professeurs, d'autres jours, il y a eu une manifestation importante de nounous, de puéricultrices des jardins, des crèches, et qui a été réprimée de manière féroce, comme si les puéricultrices étaient des dangereuses terroristes. Et donc, je crois qu'on peut dire que tout le Chili, de manière très transversale, est dans la rue aujourd'hui.
Donc avec des revendications, et puis l'espoir d'un changement, et cet espoir est possible ?
On ose le croire. On voudrait tous y croire, c'est-à-dire de pouvoir pousser le gouvernement à ce qu'il se plie à un plébiscite. Plébiscite posant la question d'une nouvelle constitution. Et pour cela, il faut faire une loi. Il faut écrire une loi qui demande un quota de voix au Parlement et à l'Assemblée et au Sénat relativement important. Mais on devrait pouvoir l'obtenir. C'est la voie idéale. S'il y a un plébiscite pour une nouvelle constitution, il sera gagné. Parce que, étant donné la situation actuelle, et si cette constitution est engagée, le plébiscite porterait sur deux questions. Voulez-vous, oui ou non, une nouvelle constitution? Et quel mécanisme pour cette nouvelle constitution? Le mécanisme souhaité le plus généralement, c'est une assemblée constituante.
Et une constitution qui remettrait un État, qui permettrait les privatisations, qui permettrait de spolier tous ces riches?
On va voir, ça c'est de la lutte politique. Postérieure, on ferait de la politique fiction sans se lancer à imaginer ce qui pourrait se passer dans une assemblée constituante où la droite sera nécessairement présente. Hein, et la droite d'abord ne veut pas de nouvelle constitution et ne veut pas d'assemblée constituante. Donc on a un grand pas à franchir auparavant. Mais oui, qui remettrait une nouvelle constitution qui redonnerait à l'État une capacité d'agir, en tout cas. Et capacité d'agir, ça veut dire aussi sortir des abus les plus flagrants. La privatisation de l'eau, par exemple. Le Chili est le seul pays au monde qui a privatisé l'eau et qui l'a donnée gratuitement à des privés et lesquels la font payer désormais, la captent, etc. Et donc l'eau, l'électricité, tout au Chili, le gaz, enfin absolument tout a été privatisé, comme on voit les choses arriver petit à petit en France. Mais nous sommes au Chili, nous, dans une situation post-triomphe de l'ultralibéralisme, et lorsqu'on voit en France ce genre de choses s'installer petit à petit, on peut imaginer, nous savons déjà à quoi ça conduit, j'espère qu'on n'arrivera pas à cela ici.
Donc on ne sait pas ce qui nous attend, mais on sait bien ce que Macron nous répète finalement, c'est dérégulation, privatisation des aéroports, c'est des phrases qu'on vient d'entendre. Alors on va quand même finir par une chronique d'actualité plus française, mais pas forcément française, elle est aussi chilienne, car c'est la critique économique d'Alex sur, ici, l'industrie ou la production d'énergie.
Ouais, alors le... Donc... Peut-on être écologiste et favorable au nucléaire? Hier matin, c'est la question que je me suis posée en entendant Guillaume Erner sur France Culture interviewer Jean-Marc Jancovici. Et le ton est un peu monté. Donc de manière très très sèche et visiblement agacée, Jancovici a entrepris de démontrer aux journalistes que le nucléaire est nécessaire pour amortir la transition écologique. La réaction en face a été stupéfaite, voire indignée du présentateur de la matinale, ce qui montre bien d'ailleurs à quel point l'association écologie et nucléaire semble impossible et complètement incongrue. Mais Jancovici a des arguments. Le nucléaire est moins dangereux qu'on le présente. Si on ajoute tous les morts occasionnés par les accidents de Fukushima et Tchernobyl, on est très loin du nombre de morts occasionnés par l'extraction du charbon à peu près chaque année. Le nucléaire ne dégage pas de CO2 et ne participe pas au réchauffement climatique. Le coût du nucléaire reste relativement faible comparé au coût d'un équipement massif en solaire et en éolien, bien entendu, dans l'absolu, tout à fait préférable. Alors... évidemment, ça fait bizarre et on comprend Guillaume Erner. Maintenant, il faut savoir distinguer le fond et la forme chez ce personnage. La forme est absolument brutale. C'est un ancien polytechnicien, un ingénieur qui gagne sa vie en étant consultant et enseignant. Il apparaît hautain, cassant, méprisant envers les journalistes qui racontent n'importe quoi. L'incarnation parfaite du technocrate qui possède l'expertise comme on procéderait un compte en banque bien garni. Mais il y a aussi le fond qui est discutable, mais intéressant et solidement argumenté. Le propos de Jancovici repose sur une théorie économique qui ne dit pas son nom. Comme chacun sait, la croissance depuis la révolution industrielle a entraîné une consommation de plus en plus importante des ressources fossiles, qui par définition ne sont pas renouvelables, et entraîne des rejets de CO2 dans l'air. Ces ressources deviennent de plus en plus rares et vont nécessairement s'épuiser, tandis que les rejets de CO2 entraînent un changement climatique qui diminue les rendements agricoles. On connaît l'histoire. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais... on peut, comme d'ailleurs les économistes orthodoxes, penser la raréfaction des ressources naturelles, que cette raréfaction des ressources naturelles doit conduire à une hausse des prix, qui va stimuler l'invention, l'innovation, la création de nouveaux moyens de produire plus efficaces en utilisant d'autres ressources. Bref, si on laisse faire le marché, si le marché fonctionne bien, la croissance se maintient en se verdissant. Et Jancovici conteste de façon très juste ces illusions économiques et montre pourquoi ces derniers passent allègrement à côté de la question écologique. Dans le modèle classique, les ressources naturelles n'ont pas de prix. Pas parce qu'elles seraient irremplaçables, extraordinaires, parce qu'il suffit de se penchés pour les ramasser. On les achète à personne. Et la croissance est liée avant tout au progrès de la productivité, à l'investissement en capital humain, bref, à l'innovation. Pour Jean Covici, la croissance matérielle, la production de biens, mais aussi de la plupart des services, s'explique d'abord, fondamentalement, essentiellement, par une hausse immodérée de la consommation des ressources fossiles. La quantité d'énergie nécessaire pour prolonger la croissance ne fait qu'augmenter au fur et à mesure que cette croissance augmente. Cette croissance se maintient plutôt. Le marché peut très bien être ce moyen parfait de répartir les ressources que nous présentent les économistes, comme Hayek ou Friedman. Il ne peut pas pour autant dépasser cette limite physique. De plus, un système de prix qui doit diriger les décisions des agents économiques, qui est absolument incapable de fixer un prix significatif au principal facteur de croissance, a relativement peu de chances d'arriver à régler la question écologique. Historiquement, le marché incite à produire plus, à utiliser sans modération des ressources naturelles abondantes et gratuites. Attendre de lui qui pousse les agents à se modérer, à consommer et à produire de manière plus sobre est illusoire. Il y aurait plein d'autres choses à raconter sur les travaux de Jean-Marc Jancovici, mais je trouve que ce que j'apprécie, c'est ce personnage, en dehors de son ton discutable, c'est qu'il ouvre des perspectives.
Il en ouvre des perspectives. Et une perspective, c'est bien entendu d'aller voter le référendum pour la sauvegarde d'un bien commun qui sont les aéroports de Paris. N'hésitez pas à inciter autour de vous, si vous avez déjà rempli cette pétition, faites-le massivement. C'est assez facile. Il suffit d'aller sur référendum.intérieur.gouv.fr. Ça vous prend 3 minutes et ça permettra peut-être d'avoir un peu de démocratie, d'utiliser la Constitution tant qu'on en a une pour brider l'économie. Et le libéralisme. D'ailleurs, il y a jeudi prochain, ici dans les studios de FPP, un débat public, une émission en public. N'hésitez pas à venir participer sur place. C'est à 19h dans les studios de FPP. Alors, on remercie tout le monde. On remercie Jean-Marc, Gaël, Alex, Ludo à la technique, Jean-Yves qui nous écoute de chez lui. Et on remercie surtout notre invité, Armando Uribe.
Merci à vous. À très bientôt, j'espère.
Et on se quitte encore avec le Chili en écoutant Altiplano par la formation Altiplano.